Hier, aujourd'hui et demain, ont lieu de par le monde d'innombrables comparutions devant un tribunal, suite à quoi, en principe, un jugement ou une sentence est prononcée. Il n'est certes jamais agréable d'être traduit en justice, mais c'est de la gnognotte comparée au tribunal présidé par celui à qui nous devons tous rendre des comptes. Dans les Écritures, il est question de plusieurs jugements. Premièrement, le tribunal de Jésus-Christ, devant lequel tous ceux qui ont foi en lui doivent comparaître. C'est le moins douloureux, lui encore que si je pouvais l'éviter, ça m'arrangerait bien. C'est à ce moment-là que les croyants qui ont été fidèles au Seigneur sont récompensés pour leur dévouement. Tous ceux qui vont à ce rendez-vous incontournable sont bien heureux, car ils ont part à la première résurrection. Il existe un autre jugement, incontournable lui aussi. Il est réservé à ceux qui ne bénéficient pas de la grâce de Dieu, connu sous le nom « jugement dernier ». Son vrai nom est « jugement du grand trône blanc ». Cette comparution est de très mauvais augure, car toujours suivie de la sentence de la seconde mort. Ce rendez-vous est aussi la dernière fois que Dieu se comporte en juge. Pour pouvoir se présenter en personne à la barre des accusés, le condamné ressuscite. Il sort du séjour des morts et la preuve de sa culpabilité est présentée. Mais aucun jury n'est présent et aucune délibération n'est prévue. La défense n'est pas assurée car il n'y a pas d'avocat et le verdict est sans appel. Tous les accusés sont déclarés coupables et punis pour l'éternité sans jamais aucune possibilité de révision de procès et remise en liberté. L'apôtre Jean, qui décrit ce qu'il voit, utilise un langage simple mais rendu brutal par l'absence de détails. Il faut dire que la scène est tellement terrifiante qu'il n'a pas besoin d'y ajouter des expressions frappantes. Dans un sens, la condamnation des hommes est la faute de Satan, le père du mensonge, et dans le jardin d'Éden, c'est lui qui incite Ève à désobéir à l'ordre de l'Éternel. Mais la ficelle est grosse et Ève hésite à manger le fruit défendu. Elle rappelle au diable l'interdiction de Dieu et sa menace. Mais le serpent balaye ses doutes en affirmant « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas !» Le diable a également réussi à convaincre les multitudes qu'il n'y a pas de jugement et donc qu'on peut vivre comme bon nous semble. Il se sert des religions et depuis un siècle et demi de la théorie de l'évolution pour conduire d'innombrables gens à la perdition. En effet, si l'homme descend d'une soupe primaire selon des processus naturels, il n'y a plus de créateur à qui on doit rendre des comptes, et à la mort, tout est fini. Les fausses religions aussi sont perverses, comme les divinités sont affligées des mêmes tares que les hommes. Elles exigent pas de conduite morale de la part de leurs adeptes, et de toute façon, si elles se fâchent, on peut toujours les apaiser par des cérémonies. Mais en dépit des spéculations insensées des hommes, il y a bel et bien un Dieu créateur, et il est aussi le juge suprême de l'univers. Comme sa nature est d'être juste, toutes les décisions le sont également, ce qui paraîtra au jugement du grand trône blanc, quand nul ne contestera sa sentence. Ceux qui, ici-bas, n'acceptent pas la grâce de Dieu en Jésus-Christ seront obligatoirement confrontés dans l'au-delà à sa justice. Or, la justice s'obtient en venant à Jésus-Christ et en croyant en lui pour recevoir la vie, ce que ses contemporains ont refusé. Je continue maintenant de lire dans le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Ensuite, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Ici encore, l'expression grecque traduite par « ensuite » nous ouvre une nouvelle fenêtre de la vision de Jean. À partir d'ici et jusqu'à la fin du chapitre 20, l'apôtre décrit en termes très sobres, mais percutants, le jugement dernier qui aura lieu à la fin des 1000 ans du règne de Jésus-Christ, ce qui correspond aussi à la fin de l'histoire de l'humanité et au début de l'éternité avec une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Le trône que voit l'apôtre Jean est grand, peut-être par sa taille, mais surtout par sa signification, car la majesté et l'autorité divine lui sont attachées. Le prophète Daniel a lui aussi reçu la même vision, car il écrit « Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes. Un vieillard, âgé de très nombreux jours, prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige, et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui. Des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place, et l'on ouvrit des livres. » Cette scène correspond à la seconde résurrection, celle qui conduit au jugement. Cette résurrection est également mentionnée par Jésus dans l'Évangile selon Jean, après avoir prononcé une condamnation contre les non-juifs. Dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul dit aux Juifs « Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour est le jugement du grand trône blanc, un trône qui semble différent que celui qui est préalablement mentionné plus de 30 fois dans l'Apocalypse. Jean ne précise pas qui est assis sur le trône, mais il s'agit de Jésus-Christ, car selon plusieurs passages des Écritures, c'est lui qui jugera le monde. Dans son évangile, Jean rapporte qu'il a dit « Ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes, il a remis tout jugement au Fils. » Dans le livre des Actes, on lit que l'apôtre Pierre dit au centurion romain Corneille et à tous les siens « Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. » Au philosophe d'Athènes, l'apôtre Paul déclare « Il, Dieu, a fixé un jour où il jugera le monde entier, en toute justice, par un homme qu'il a dirigé pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. » Et Paul écrit respectivement dans son épître aux Romains et dans sa seconde lettre à Timothée « Dieu jugera par Jésus-Christ des actions secrètes des hommes. » Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Parfois on entend quelqu'un se moquer de Jésus en chanson, en jurant, ou même dire « d'où Jésus », qui n'est certes pas une expression violente, mais tout de même prend son nom en vain. Eh bien, si on croit vraiment à la scène du grand trône blanc décrit par Jean, on n'est pas simplement mal à l'aise, mais saisie d'horreur. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne voudrais pas être dans les souliers de ceux qui ont participé d'une quelconque manière à la comédie musicale Jésus-Christ Superstar, ou aux romans et films qui inventent ce qu'a été la vie comme le Code da Vinci. On peut rétorquer que ces personnes ne savent pas ce qu'ils font, mais j'en doute fort, car c'est de l'ignorance voulue, et puis même, car de toute façon, aucune excuse ne sera recevable devant le Seigneur de gloire. Il y a bien des façons d'écarter Dieu et Jésus-Christ de sa route, et l'une que j'ai souvent entendue consiste à dire « On verra bien quand on sera de l'autre côté » ou encore « Je suis meilleur que la plupart des gens ». D'autres sont aussi arrogants que des coqs et affirment s'il y a un Dieu et qu'il est juste, il sera bien obligé de tenir compte de mes bonnes actions. » Assez curieusement, c'est également de cette manière que Jean-Jacques Rousseau compte se justifier devant Dieu. Dans le préambule de son livre « Confession », il déclare « Que la trompette du jugement dernier sonne quand elle voudra. Je viendrai, ce livre à la main, me présenter devant le souverain juge. Je dirai hautement « Voilà ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce que je fus. » Que chacun d'eux découvre à son tour son cœur au pied de ton trône avec la même sincérité, et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose, « Je fus meilleur que cet homme-là. » Nous aimons nous comparer à d'autres et dire « Je suis quand même bien mieux que le voisin d'à côté. » Bien sûr, mais encore me faudrait-il bien connaître le voisin d'à côté. Chacun sait des choses qui le concernent qu'il n'oserait pas dire à son meilleur ami. C'est votre cas, n'est-ce pas? Vous savez ce que vous cachez, ce qui vous fait honte, et que pour rien au monde vous voudriez qu'on découvre. Mais pour ceux qui se trouvent devant le trône blanc et qui demandent à être jugés en fonction de leurs actions, les moindres détails de leur vie vont être exposés au grand jour. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon écrit « Dieu jugera ton œuvre, même celles qui ont été accomplies en cachette, les bonnes et les mauvaises. » Depuis notre plus tendre enfance, chaque action, parole et pensée est enregistrée quelque part dans notre mémoire. En ce monde, nous n'avons pas accès limité à nos souvenirs. Mais au jugement dernier, ceux qui sont mis en examen visionnent toute leur vie en détail, du début à la fin. Ce qu'on va voir et entendre va les convaincre que Dieu est parfaitement juste de les envoyer dans les temps de feu. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, voir se dérouler ma vie devant mes yeux n'est pas une expérience qui me tente le moins du monde, parce que je sais que mes bonnes actions laissent à désirer, et puis surtout, elles ne peuvent en aucun cas gommer les mauvaises. Il existe pourtant bien un moyen d'effacer ces fautes. Dans ses épîtres aux Éphésiens et aux Romains, l'apôtre Paul écrit respectivement « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Pour ne pas se retrouver devant le trône blanc, il faut accepter d'être purifié par le sang de Jésus et aussi recevoir le pardon de ses péchés. Cet acte permet aux repentants d'ôter ses guenilles et d'être revêtu de la justice de Jésus-Christ, la robe de l'impur éclatant, indispensable pour entrer au ciel. Je continue le texte. Le ciel et la terre s'enfuient loin de sa présence, du grand trône blanc. Il disparut sans laisser de traces. Il s'agit d'une action de Dieu qui est l'inverse de la création de l'univers. Par sa parole, Dieu fit alors sortir la terre et le ciel du néant. Mais ici, par cette même parole, il les y renvoie. Comme le présent univers, celui que nous connaissons, est souillé par le péché, il faut qu'il disparaisse complètement, car aucune trace d'impureté ne peut entrer dans l'état éternel parfait. Dans sa seconde épître, Pierre écrit « Le jour du Seigneur, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. La terre est notre planète et le ciel fait référence à l'univers physique visible de l'espace interstellaire et intergalactique. Le mot pour astre qu'utilise Pierre signifie littéralement ceux qui forment une rangée. Ici, il désigne à la fois les astres de l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est-à-dire les particules constitutives de la matière. À la fin du jour du Seigneur, qui s'étale du début de la tribulation à la clôture du millénium, l'univers se désagrégera et disparaîtra dans un fracas terrifiant. En grec, le mot pour fracas est une onomatopée qui décrit une détonation assourdissante, ainsi que les crépitements et les sifflements d'objets qui explosent. De toute façon, notre univers n'est pas éternel. Il est un peu comme une immense horloge dont les ressorts se détendent. C'est ce qui, en thermodynamique, s'appelle entropie, un mot qui veut dire « retour en arrière » et qui décrit un désordre croissant. Au fil du temps, notre univers se dégrade et un jour, il s'arrêtera de fonctionner. Mais avant que cela n'arrive, Dieu le détruira. Dieu sait détruire, mais il est avant tout un constructeur. Si l'apôtre Pierre nous fait part de la destruction de l'univers, il conclut en disant « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Je continue de lire dans le chapitre 20. « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Étant donné qu'il n'y a ni terre ni ciel, tous les êtres vivants qui ont existé sont morts. Ceux qui se trouvent à la barre des accusés constituent la fratrie des damnés, réunis pour la première et la dernière fois. Ce sont des hommes et des femmes de tous les temps et de tous les groupes ethniques, les grands de ce monde. Ceux qui ont fait l'histoire sont là, ainsi que les grands criminels et les petits vicieux, les mesquins, les commères, les religieux et les moins coriens qui n'ont fait que passer. Ils sont tous ressuscités, et parce qu'ils sont injustes, ils sont condamnés à la honte et l'horreur éternelle, écrit le prophète Daniel. C'est horrible, j'en conviens. Cependant, la bonne nouvelle est que tous les êtres humains qui ont fait confiance à l'Éternel ou à Jésus ne font pas partie de la charrette des condamnés, et donc ils ne sont pas concernés par le jugement du grand trône blanc. D'ailleurs, il y a déjà 1000 ans qu'ils sont ressuscités et ont reçu leur récompense. Depuis, ils règnent avec le Seigneur et Jésus a promis à ses fidèles. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Les apôtres Paul aux Romains et Jean dans son évangile affirment respectivement « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. » Je continue le texte. « Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés. Chacun d'après ses actes, suivant ce qui était écrit dans ses livres. Le prophète Daniel aussi écrit « La cour de justice prit place et on ouvrit des livres ». Il est intéressant de noter que la mention « des livres furent ouverts » souligne une procédure de justice parfaite. Les criminels, grands et petits, qui n'ont pas été pardonnés par Jésus-Christ, sont tous présents, Judas, Hitler, Staline et les millions d'autres. Certains ont déjà purgé une peine sur terre, mais la plupart ont réussi à passer à travers les mailles du filet de la justice humaine. Mais devant le grand trône blanc, il n'y a pas d'échappatoire possible, et tous savent qu'ils vont devoir rendre compte de leurs crimes. Quant aux multitudes de bien-pensants, qui désirent être jugés selon leur action, le moment qu'ils attendaient est venu. Il est intéressant de remarquer que dans l'au-delà, les jugements se font bel et bien en fonction des œuvres. C'est sur cette base que les croyants reçoivent ou pas une récompense, et que les êtres humains sont condamnés. Quand Jésus annonce son retour pour régner, il dit « Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Les œuvres des croyants ont été passées au peigne fin au moment de l'enlèvement de l'Église. Pour les fidèles de l'Ancien Testament et de la Tribulation, l'examen a eu lieu juste avant le début du règne de 1000 ans. Tous les autres êtres humains sont devant le grand trône blanc, et c'est là qu'ils reçoivent une sentence qu'ils devront purger éternellement et qui est en fonction du mal qu'ils ont fait sur terre. Concernant la conduite des spécialistes de la loi, Jésus dit à ses disciples, « Ils aiment à parader en costume de cérémonie, être salués sur les places publiques, avoir les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les banquets. Mais ils dépouillent les veuves de leurs biens, tout en faisant de longues prières pour l'apparence. Leur condamnation n'en sera que plus sévère. » Et dans une parabole, Jésus dit, « Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritants une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. L'étang de feu est un lieu de tourment pour tous les damnés, mais à des degrés divers. Jean voit qu'on ouvre les livres contenant les actions des condamnés, mais aussi un autre livre, le livre de vie. Il en est question plusieurs fois dans l'Apocalypse. Et il remplit le même rôle que le registre des citoyens des villes de l'Antiquité. Ce livre est la liste des élus qui constituent les citoyens du ciel. Aucun de ceux qui se tiennent devant le grand trône blanc n'a son nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi ils sont jugés selon leurs œuvres et automatiquement condamnés. Dans son épître aux Romains, Paul écrit « Personne ne sera déclaré juste devant lui, Dieu, parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. L'homme est déclaré juste par la foi. » Je continue le texte. La mer avait rendu ses naufragés. La mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'il détenait. Et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Les anciens étaient particulièrement horrifiés de voir des cadavres jetés à la mer. Au travers des siècles, la mer a englouti des centaines de millions de personnes. Quant à la mort, elle représente la terre ferme, les cimetières et les charniers. Dans l'Ancien Testament, le mot « séol » traduit par « séjour des morts » apparaît 67 fois. Il désigne le lieu où vont les morts, qu'ils soient justes ou impies. Dans le Nouveau Testament, le séjour des morts revient 10 fois et désigne toujours un lieu de châtiment, une sorte de pénitencier où vont les âmes des êtres humains qui meurent sans avoir reçu la vie éternelle. Ici, autant la mer que la mort sont dépeintes comme des monstres voraces qui ont avalé des corps humains, mais qui sont forcés de les dégurgiter, de les rendre à la deuxième résurrection. Une fois ressuscités, les corps sont réunis à leur âme qui se trouve dans le séjour des morts. Ces êtres humains reconstitués sont alors traduits en justice, condamnés et jetés dans les temps de feu pour l'éternité. Voilà un passage à vous faire dresser les cheveux sur la tête.